Bonjour mes frères et sœurs. Quelle grâce de se retrouver sous le regard du Seigneur. Je vous exhorte à noter les textes, à avoir votre Bible. J'espère que vous avez amené votre Bible. Vous savez, je suis attristé de voir que beaucoup de chrétiennes ne lisent pas la Bible. Ce sont des choses sévères. Vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais relire avec vous un texte qu'on a lu dimanche dernier pour indiquer un petit peu le départ de l'importance de mettre la parole de Dieu en pratique. Dans l'épître de Jacques, il est dit ceci, on l'a lu, vous le connaissez, mais c'est bien de le relire puisque c'est peut-être une série de plusieurs thèmes, de plusieurs suites sur l'importance de mettre en pratique la parole. Si le Saint-Esprit me pousse à ce sujet, c'est parce que beaucoup de chrétiens croient en Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Pas à Dieu. Ils croient Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas Dieu. Vous avez compris la différence? Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ça, c'est l'image du chrétien superficiel. Il lit pour lire. Il s'imagine qu'il lit, il lit vite fait. Et puis, il y a le chrétien qui s'approche de Dieu, comme on l'a chanté. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, regardez les conséquences, celui-là sera heureux dans son activité. On voit bien dans toute la parole que malgré les combats, les luttes, les épreuves, etc., qui sont le lot des chrétiens, il y a quand même le bonheur d'obéir. Vraiment, celui-là sera heureux. Je vous donne un exemple, parce que ça rentre dans le cours de cette étude. Dernièrement, un chrétien de longue date. Vous savez, moi, je m'inquiète réellement. Je m'inquiète. Me poser la question, Monsieur Gou, un chrétien, il est réincarné? J'ai dit, vous avez lu l'Épître aux Hébreux? Oui, monsieur. En plus, les gens, ben oui. Vous avez lu Hébreux, chapitre 9? Ben oui. Lisez-le, mes frères et sœurs. Je vais vous donner des exemples ce matin pour vous montrer que ce qu'on vient de lire, c'est une vérité. Où je fais partie de ceux qui lisent pour lire? Je me souviens, quand je suis rentré dans le ministère, le pasteur m'a dit, est-ce que tu as lu la Bible en entier? Ça faisait pas 3 ans que j'étais converti. J'ai dit non. Il m'a dit, il te faut lire la Bible en entier. Il y a 2 mois, j'ai lu la Bible. Mais j'ai lu. Je lisais à fond. Voilà. Et au bout de 2 mois, j'ai dit, monsieur Bertalon, j'ai lu ma Bible en entier. Il me dit, tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. J'ai dit, je l'ai lu. Mais je n'avais rien retenu. Je lisais 7, 8, 10, un livre en entier. Je lisais. Regardez avec moi dans Hébreux, chapitre 9. Mes frères et sœurs, combien je vous encourage à noter ces textes. L'autre jour, j'ai repris un responsable d'une église, d'un groupe universitaire de Toulouse. Écoutez bien, qui est venu me trouver pour faire le point. Et je lui ai posé 2 ou 3 questions. Et cette personne chargée d'enseigner ne connaissait pas la doctrine. Et j'ai dit à la personne, mais il faut étudier. Et la personne, elle était confuse, elle a bien réagi. Cette personne a très bien réagi. Mais elle est chargée d'enseigner la doctrine. Hébreux chapitre 9, verset 27. Ça fait partie des versets qu'on devrait apprendre par cœur d'ailleurs. Pas que pour soi, mais pour témoigner. Parce que quand même, si on ne peut pas convertir les gens, ça j'en conviens, il est quand même dit, vous serez mes témoins. Et qu'un chrétien de plusieurs années de conversion n'est pas capable de comprendre qu'il ne sera pas réincarné, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors le jugement, ça ne veut pas dire la condamnation, mais ça veut dire qu'il faudra tous comparaître devant le Seigneur pour rendre des comptes. Vous voyez, ça fait partie des versets qui doivent être appris. Un chrétien, il doit pouvoir dire, si demain vous rencontrez un hindou ou un quelqu'un qui croit en la réincarnation, qui va vous faire tout un pataquès sur le karma et le nirvana, il faut lui dire non, 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 non. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas être réincarné dans un acacia ou dans une grenouille. Mais c'est ça qu'on vous dit. Ça fait rire. Mais à Toulouse, il y a peut-être plus d'hindouistes que de chrétiens. Et je crois que si on est vraiment attaché à Dieu, parce que quand même, on vient de chanter, il est beau ce cantique qu'on vient de chanter. Je m'approche de toi. Mais est-ce que c'est vrai? Je m'approche de toi, Seigneur. Je dois savoir ces choses. Écoutez-moi, moi je ne sais pas, moi il y avait moi que j'étais converti, je le savais, puis j'avais posé la question au pasteur, j'ai dit au pasteur, écoutez, la réincarnation, qu'est-ce que la Bible en dit? Et il m'a dit ce verset, il y avait moi que j'étais converti, et je le sais, mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est du bon sens. Si vous demandez à un enfant de 6 ans combien ça fait 1 plus 1, il vous dira, 1 plus 1, monsieur Gou, ça fait 2. C'est pas un exploit, on le lui a appris. Et moi, franchement, quand je dis que je me fais du souci, je me fais vraiment du souci, je le dépose. Mais je me fais du souci. Alors, il y a vraiment un aveuglement, c'est quelque chose de sévère. Quand Dieu, dès le départ, dit, mais si tu n'obéis pas, écoutez bien, frère, si tu obéis, je te bénirai. Si tu n'obéis pas, je te frapperai d'aveuglement. C'est écrit ou c'est pas écrit? Deutéronome 28. Je te frapperai d'aveuglement. Alors, pour introduire ce culte, parce que j'aimerais vraiment, mes frères et sœurs, que nous avancions, je ne dis pas que vous avanciez, que nous avancions. Parce que Jésus va bientôt revenir. Et il ne prendra pas les gens qui n'obéissent pas. C'est écrit ça, qu'il revient chercher ceux qui obéissent. Il ne vient pas rechercher les gens qui vont à l'église. Il vient chercher les gens qui le connaissent, c'est écrit, dans 2 Thessaloniciens, et ceux qui obéissent. Alors on va partir d'un cas, d'un chrétien, qui n'était pas, parce qu'aujourd'hui on est là, j'entends tout le temps, mais il faudrait peut-être, c'est la faute aux parents, mes parents ils étaient pervers, narcissiques, mon père c'était un alcoolo. Écoutez, il faut arrêter. On va voir quelqu'un qui avait un papa qui allait pas si mal que ça. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, il y a quelqu'un, moi je trouve que le père c'était pas un pervers, un alcoolique, le père il s'appelait Adam. Est-ce qu'Adam était touché par la pollution? Est-ce qu'Adam était touché par la corruption? Non. Adam, qui c'était son père Adam? Qui c'est qui avait créé Adam? Il faut arrêter, mes frères et sœurs, de chercher des excuses. On l'a lu. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Mes frères et sœurs, il faut arrêter. Abel et Caïn, ils avaient un papa et une maman qui étaient bien. Vous êtes d'accord? Bon. Vous savez qu'après le péché, Dieu a dû provoquer un sacrifice pour le pardon. Donc, Adam et Ève ont enseigné à leurs enfants que pour plaire à Dieu, il fallait offrir un sacrifice. Ils le savaient, tous les deux. Ils le savaient. Comme nous, on sait très bien, comme on l'a réentendu une fois de plus ce matin, que pour être agréable à Dieu, il faut être couvert par le sang du Seigneur. Oui ou non? Voilà. Il faut être couvert par le sang de Dieu si nous voulons être agréables à Dieu. Le premier cas dans Hébreux 11 des types de la foi, c'est Abel qui a offert à Dieu un sacrifice agréable et que Caïn, lui, n'a pas offert un sacrifice agréable. Qu'est-ce qu'il a fait Abel? Alors lisons-le, Caïn. Alors, Genèse, on va lire à partir du verset premier. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, donc c'était un agneau qui avait été sacrifié, dont le sang avait été versé. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Résultat, Caïn fut très irrité. Il est vexé. Et son visage fut abattu. Il aurait dû de suite réagir. Il le savait. Mais monsieur a voulu offrir ce qui plaisait. Dieu, dans sa bonté, va vers lui. Dieu ne nous rejette pas de suite, c'est nous qui le rejetons. La preuve, c'est qu'une fois de plus, nous voyons l'Éternel, dit à Caïn. On voit que Dieu encore prend le temps de parler à Caïn. Dieu veut l'aider. Il est irrité, c'est pas trop grave. Si vous vous irritez, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ça peut arriver, une mauvaise réaction. Ne mettons pas non plus la barre trop, ça peut arriver. Mais Dieu va vers lui, Dieu va vers Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Bon, Dieu le savait très bien. Mais béni soit Dieu pour ses bontés, ses questions, ses prédications. Béni soit le Seigneur pour son approche. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. C'est un problème. Les gens ne captent pas qu'on peut ouvrir la porte au diable. Les gens ne le captent pas, ça. Et tes désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Comment on peut dominer? Vous connaissez la suite, hein? Est-ce qu'il n'aurait pas pu réagir? Il n'aurait pas pu dire, oh, purée, pardon, j'ai fait à ma façon. Je te demande pardon. La prochaine fois, eh bien, l'an prochain, j'offrirai comme mon frère un agneau. Est-ce qu'il aurait pu faire comme ça? C'était réglé. Il aurait dit, merci Seigneur, merci. Et c'était fini. Et c'est ce que je voudrais que nous comprenions. Si vous vous êtes mal comporté, si vous n'avez pas mis en pratique la parole, ne vous irritez pas, parce qu'on voit dans la Bible, même certains pasteurs, quand Dieu dit à Jonas, à qui Dieu avait demandé d'aller à Ninive, lui il part de l'autre côté, c'est normal, ça c'était normal. C'est comme si on demandait aujourd'hui à un pasteur américain, d'aller prêcher à Bagdad. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est normal qu'il hésite? Moi, je pense que c'est un peu normal. Mais le problème, il n'est pas dans une réaction. C'est qu'après, quand Dieu dit à Jonas, « Mais tu fais bien de t'irriter contre l'Irisin ?» Monsieur était vexé parce que Dieu avait coupé la clim. Vous connaissez l'affaire? Oui. Je fais bien de m'irriter. Et je vous assure qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ressemblent à Jonas. Beaucoup de chrétiens ressemblent à Caïn. Dieu leur parle au travers d'une prédication et ils disent, je fais ce qui me plaît. Est-ce qu'un chrétien fait ce qui lui plaît? Non. Un païen, il fait ce qui lui plaît. Un pécheur qui a pour père le diable, oui, il fait ce qui lui plaît. Si quelqu'un du monde vous dit, mais moi je fais ce qui me plaît, c'est normal. Son père, c'est le diable, il est dans un cursus de désobéissance, c'est normal. Mais un chrétien, quand Dieu lui parle, il devrait bien réagir. Et je peux vous dire que Caïn avait un papa et une maman qui allaient bien. Mais il a choisi de s'irriter. Et quand on laisse l'irritation s'installer, la haine et la jalousie est venue, alors qu'il aurait dû dire à son frère, oh, merci, mais j'ai compris ce qu'il me fallait faire. Mais ça se serait super bien passé. Et il a tué son frère. Je ne sais pas si on est compte, il a tué son propre frère. Vous vous rendez compte? La jalousie, la haine, et Caïn représente, de toute l'histoire, d'ailleurs on le voit dans la Bible, Caïn représente ceux qui veulent se sauver par les œuvres. Malheur aux hommes qui ont suivi la voie de Caïn. C'est Jude qui dit ça. Malheur, c'est dans le verset 11, pour ceux qui prennent des notes. Malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn. Il l'a fait pour Dieu, il l'a fait pour Dieu. Et il y a plein de chrétiens, ils s'imaginent qu'ils font les choses pour Dieu, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Je viens de prendre l'exemple de la réincarnation. Moi, je vous avoue franchement, mais je m'interroge tout haut. Je ne suis pas en train de juger, Dieu ne le bénira pas cette affaire. Comment un chrétien qui a 3 ans, 10 ans de conversion, peut croire à la réincarnation? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je vous avoue, ça me blesse, ça me fait mal au cœur. Et le gars qui me dit, oui, mais l'Épître aux Hébreux, je l'ai lu plusieurs fois. Si tu n'obéis pas, je te frapperai d'aveuglement. Il y a des explications, elles sont dans l'aveuglement. Un aveugle, il ne voit pas. La Bible le dit que celui qui a de la haine pour son frère, il est dans les ténèbres. Est-ce que c'est écrit ça? Que celui qui n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne vous imaginez pas que le Saint-Esprit va vous éclairer. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous serez dans les ténèbres. Vous êtes dans les ténèbres. Et c'est pour ça que quand on lit, on ne comprend rien. Et justement, le diable arrive à nous faire croire qu'on est en communion avec Dieu. C'est comme les gens qui viennent pour prendre le pain et le vin. Ils s'imaginent que parce qu'ils prennent le pain et le vin, ils sont en communion avec Dieu. Alors mes frères, moi je vous assure, moi je prie, je demande à Dieu, de la même manière que vous aussi, vous priez pour moi, pour que le Seigneur nous dirige vraiment. Parce qu'il revient, je le répète, il va revenir chercher, pas ceux qui sont à l'église, il va revenir chercher ceux qui obéissent. Et grand sera le malheur, c'est écrit, parce que les gens ne prennent pas ces choses au sérieux. Alors, mes frères et sœurs, il y a des petites choses comme ça qu'on doit négliger. Est-ce que la Bible en parle, des petits renards? Petit renard, c'est un petit renard dans une vigne. Franchement, qu'est-ce que ça peut faire un petit renard dans une vigne? Eh bien, ça peut la ravager en entier. C'est écrit, les petits renards qui ravagent les vignes, qui gâtent les vignes? Est-ce que c'est écrit? Pourtant, un petit renard dans une vigne de 4 hectares, je veux dire, ça ne va pas. Eh bien oui. Eh bien oui, ça suffit. La Bible parle des gazelles, des gazelles, des azelles, vous savez les grillons? Un grillon, une sauterelle, dans un champ de céréales, ne va pas me dire que ça va bouffer toute la récolte. Mais la Bible dit que ça peut tout manger. Tout. Une mouche, c'est pas quand même un éléphant. Une mouche, ça peut infecter l'huile dans un vase. Une mouche dans une huile, mais tu plaisantes. Mes frères et sœurs, c'est écrit. Et nous sommes dans un truc de légèreté. Les gens, je m'en fiche. Ce que les autres pensent, ça m'est égal. Un peu croiser les bras, un peu, c'est pas... Est-ce qu'on a droit à un peu de repos? Mais bien sûr, même beaucoup quand on est malade. Un peu croiser les bras, un peu de sommeil, et la pauvreté te surprendra. C'est écrit. Mais le problème, c'est que les gens, ils n'en ont rien à faire. Je voudrais vous donner des exemples pratiques. Moi, ça m'inquiète, hein. Je vous assure que ça m'inquiète. Je comprends pourquoi Jésus, parce que je réfléchis vraiment, vous le savez. Je comprends pourquoi Jésus a appelé les vierges qui n'étaient pas prêtes, des vierges folles. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi qui ai donné ce nom. Moi, j'aurais pas dit les vierges folles, j'aurais dit les vierges négligentes. Parce qu'elles avaient ou négligé de mettre de l'huile suffisamment. Jésus dit qu'elles sont folles. Et quand on ne prend pas à cœur les choses de Dieu, on est fou. Chanter un cantique aussi profond que « Je m'approche de toi » ou l'autre qu'on a chanté « Viens, mon âme te réclame » et prendre à la légère les choses. Et je vous en supplie, mes frères et sœurs, mais ne lisez qu'un verset par jour. N'en lisez qu'un. Mais méditez-le. Je ne sais pas si ce que je dis, ça tient debout. Mais mes frères et sœurs, il y a quelques années de cela, des jeunes, je vous donne un exemple. Des jeunes fêtaient le départ de notre jeune. Et c'était très bien. Monsieur Gou, on va à telle terrasse boire un pot. Est-ce que vous voulez venir avec nous? Alors moi, je leur ai dit, non, je ne peux pas. Ça m'est égal, mais je veux dire, j'avais envie, sans avoir envie, ça m'est égal en vérité. Je ne peux pas. Et pourquoi? Parce que dans le quartier, beaucoup de gens me connaissent. Il y a certains rétrogrades que je connais, qui sont devenus des alcooliques, qui me connaissent. S'ils me voient à la terrasse d'un bar, en train de boire même un Monaco, ça suffit pour être une pierre d'achoppement. Vous allez me dire, oh monsieur Gau, alors est-ce que c'est biblique ce que je vous dis? Est-ce qu'il faut penser à la conscience de l'autre? Ou est-ce que, comme je l'entends même ici, dans l'église, moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à cirer. Alors, on va lire. Alors, à la rentrée, peut-être qu'on prendra l'Épître aux Corinthiens, parce que l'Épître aux Corinthiens est remplie de solutions par rapport aux problèmes qu'a rencontré l'Église. Mes frères et sœurs, c'est sérieux, ces affaires. La piété, c'est sérieux. Vous êtes d'accord? Je vous devais l'être, vous restez. Vous restez, ça doit aller encore. Dans l'Épître aux Corinthiens, il y a un problème par rapport à la conscience, c'est par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles. On va y revenir aux idoles si on a le temps. Il y a tout un enseignement, c'est très très important. Pourquoi? Vous allez voir. Alors, On va lire ce qui nous intéresse. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Mes frères et sœurs, ce sont des chapitres qu'il faut méditer. Il ne faut pas les lire, il faut les méditer. C'est pour ça que je vous encourage à prendre votre Bible, un papier, un crayon, et à noter. J'ai discuté dernièrement avec un technicien qui travaille chez Porsche. Il a été embauché et il m'a expliqué comment il a fait sa formation. Et dans sa formation, on lui a demandé de démonter une voiture entièrement, la voiture qui ne reste pas deux pièces ensemble. Une voiture en entier, démontée, il n'y avait pas une pièce qui tenait ensemble, debout. Il a tout remonté. Mais moi j'ai trouvé, dans le monde ils le font. Il a été embauché. Il m'a expliqué dernièrement comment il a réparé une voiture que personne n'arrivait à réparer. Ah ben c'est sûr qu'il lui a disséqué la bagnole. Et mes frères et sœurs, si nous voulons grandir, être des chrétiens affermis, ce n'est pas avec des prédications, parce que si les prédications accomplissaient le but, il y a longtemps que ça serait fait. Vous êtes d'accord? Si les prédications perfectionnaient les gens, est-ce que les gens ne seraient pas parfaits depuis 20 ans? Ce n'est pas la prédication qui perfectionne les gens. C'est l'obéissance qui perfectionne les gens. Alors regardez, 1 Corinthiens chapitre 8. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Parce qu'il y a des faibles, il y a des faibles, il y a des rétrogrades, mais il y a aussi dans l'Église des faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Regardez bien la suite. Regardez bien. Et ainsi, regardez bien, le faible périra par ta connaissance. Ça fait, non mais c'est presque, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on lit. Le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Mais regardez la suite. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Et ça m'est arrivé une fois, j'avais été en Polynésie. Écoutez bien ce témoignage, moi ça me brise le cœur. J'avais été en Polynésie, on m'avait invité pour faire un séminaire. C'était la première fois que j'y retournais après mon armée. J'étais chrétien, on m'avait demandé d'y aller, et comme je prêchais à Taravao dans une ville où j'avais fait l'armée quand j'étais jeune, je me suis dit, tiens, tu vas aller aux messes des officiers, et tu vas aller les voir. J'avais été là-bas païen, et je vais les voir, pour leur témoigner. Et j'y arrive, je dis, voilà, bonjour, je me présente, je dis, voilà, j'ai fait l'armée dans cette caserne, et j'aimerais boire quelque chose aux messes des officiers. Ah bon, qu'est-ce que vous êtes, pasteur? Ah bon, rentrez. Alors je vais au mess des officiers. J'étais parti avec un chrétien, parce que je n'avais pas ma voiture. Il m'amène, il vient avec moi. Et puis, mais qu'est-ce que vous voulez boire? Alors c'était midi et demi, une heure. Il faisait une chaleur. J'ai dit, je voudrais une pression. Moi, je prends une bière pression. Est-ce que j'avais le droit? Et puis, on discute, je leur témoigne tout ça, comment vous êtes devenu pasteur. C'était super. Et puis au bout de demi-heure, une heure, il me propose une autre bière. Je dis non, merci, ça va. On me repart, etc. 4 mois après, j'étais retourné faire un autre séminaire. Il m'avait demandé d'y aller. Puis je vois là l'épouse de ce frère qui m'avait accompagné aux messes. Elle me dit, monsieur Gau, elle me dit, mon mari s'est devenu un alcoolique à cause de vous. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Vous avez bu une bière aux messes des officiers à Taravao? Je dis oui. Eh bien, mon mari m'a dit, monsieur Gau, il boit des bières. Eh bien, moi, pourquoi pas, je ne boirai pas. Mais lui, ce n'était pas la bière qu'il buvait, c'était la caisse. Il est devenu alcoolique, il est mort il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas comment il est mort. Alors, j'ai pensé, je sais très bien qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de se maintenir. Il n'y a pas de mal à boire une bière pression. Mais vous avouerez qu'il faut penser aux gens qui sont faibles. La piété, c'est ça. Et si vous faites partie des gens qui disent « Moi, ce que les autres pensent, j'en ai rien à cirer. Moi, c'est pour la liberté que Christ m'a franchi. » Eh bien, relisez ce texte et vous verrez que quand même, Dieu nous demande de faire attention aux chrétiens qui sont faibles. Oui ou non? Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas avec moi, c'est avec Dieu. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en train de prendre le même chemin qu'Abel, que Caïn. « Oh, monsieur Gau, je ne veux pas tuer quelqu'un. » Mais est-ce que tuer quelqu'un, c'est forcément l'assassiner avec une pierre? Est-ce qu'il est écrit que celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier? Parce que nous, on a une notion du meurtre qui est la notion d'un assassin qui tue quelqu'un physiquement. Mais je crois, mes frères et sœurs, que dans l'Église du Seigneur, on doit veiller à la conscience des faibles. Il y a des gens qui sont faibles. C'est malheureux. Dieu le permet peut-être, pour tester notre obéissance aussi. Il y a des gens, ils sont toujours faibles. Il y a 20 ans qu'ils sont convertis, ce sont des enfants de 3 ans. Oui ou non? Il y a des gens, ils ne font aucun progrès. Moi, à une époque, ça me culpabilisait presque. Parce que je m'étais pasteur de cette personne, elle ne fait aucun progrès. Est-ce que ce n'est pas ta faute? Je pense en partie qu'il y a certainement une responsabilité du pasteur qui n'enseigne pas des choses pratiques. Ce qu'on vient de voir par rapport à la réincarnation, je veux dire, ça ne peut pas être plus clair. Un homme, il ne vit qu'une fois sur la terre. La conscience d'un frère, elle peut être faible. Alors je fais attention. Bien sûr que si je pars en vacances, je ne vais pas m'empêcher d'aller sur une terrasse boire un rafraîchissement. Je le fais. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense qu'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il fait attention à la conscience de l'autre. On demande le réveil, on demande que l'Église soit remplie de piété. Mais c'est ça, mes frères et sœurs. C'est pouvoir dire demain, si demain je le répète, si demain vous croisez un hindou à Toulouse qui vous parle, ou un Toulousain, c'est pas la peine, pas un hindou, pas un indien, mais un Toulousain qui croit à la réincarnation, que vous puissiez dire, non mon ami, Dieu a dit qu'on ne vit qu'une fois. Après, il est d'accord ou il n'est pas d'accord, mais moi, lisez-le lui. J'ai discuté avec une sœur, je vous donne plusieurs exemples parce qu'il faut que ce soit pratique au maximum. Une sœur dernièrement, une chrétienne, elle m'a dit, monsieur Gros, on a eu un problème grave dans la famille. Dans la chambre de ma fille, il y a des choses qui se déplaçaient, qui bougeaient. Ma fille, elle est terrorisée. Terrorisée. Chrétienne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien, rien. J'ai dit, vous n'auriez pas regardé à la télévision des émissions sur le paranormal? Ah mais si. Tous les vendredis soirs, on regarde une émission sur le paranormal. Mais c'est pour s'informer. Mais j'ai dit, voilà, ça vient. Alors, elles sont priées, elles ont demandé pardon, Dieu a béni. Mais mes frères et sœurs, sérieusement, quand vous regardez une émission avec un pasteur sur Internet, vous faites entrer chez vous l'évangile, oui ou non? Oui ou non? Si vous regardez le film Jésus, si vous regardez un enseignement de Billy Graham sur tel sujet, vous faites entrer dans votre maison l'évangile, oui ou non? Et les chrétiens, mais non, monsieur Gou, vous êtes trop légaliste. On me le dit ça souvent. Moi, je ne sais pas, le légalisme, pour moi, ce n'est pas ça. J'ai dit, mais vous n'avez pas lu Deutéronome 18 à la semaine? Mais si, je l'ai lu. Eh bien, on va le lire. Deutéronome 18. Je vais vous dire quelque chose, ça va vous faire sourire. Je vous le dis pour détendre un peu. Il y a un pasteur, moi je n'aurais pas osé le faire, hein, en Belgique, il n'y a pas longtemps. Vous savez ce qu'il a fait? Moi je n'aurais pas pu le faire. Dans une église, une vieille église pentecôtiste, une vieille église, dont il y avait beaucoup de vieux chrétiens, il a dit, on va lire dans tel livre. C'est un livre qui n'existe pas. C'est comme si je vous disais, on va lire dans le livre de la Odyssée. Et tous les chrétiens se sont mis à chercher le livre de la Odyssée. Qu'est-ce que vous en pensez sérieusement? Vous ne trouvez pas ça un peu... Il l'a fait esprit, le pasteur. Et les gens, ils cherchaient. Et ils se trouvent, tu l'as trouvé? Il est où ce livre? Ça, c'était pour rire, c'était pour détendre. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc pour nous, c'est quand on sera rentré dans l'Église, dans la grâce. Tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qu'on ne trouve chez toi, dans ta maison, ça veut dire, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Alors si vous voulez d'autres textes, il y en a en pagaille. En pagaille. Des textes qui indiquent qu'on ne doit pas trouver dans notre maison des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et il y a des gens qui lisent les horoscopes, il y a des chrétiens, moi j'ai entendu des chrétiens, « Ah, tu sais pas, ce matin, ça m'a fait rire. J'ai lu l'horoscope, je devrais avoir une bonne semaine. » Quand vous lisez ces choses, il ne faut pas oublier qu'elles sont en relation avec les ténèbres. Oui ou non? Quand vous regardez, je le répète, Billy Graham à la télé, vous faites entrer l'évangile. Quand vous regardez quelque chose qui est lié à ces choses-là, vous faites rentrer les démons. Oh, vous, tu plaisantes. Vous lirez les Corinthiens et vous allez voir si certaines n'étaient pas en communion avec les démons. Vous lirez, vous le lirez. Parce qu'ils permettaient certaines choses. C'est pour ça que ça explique un peu mieux cette affaire, si tu n'obéis pas, je te frapperai d'aveuglement. Et mes frères et sœurs, moi je vous assure, je suis très inquiet, non seulement pour le témoignage de l'Église, mais je suis très inquiet pour le salut de certains chrétiens, qui ne se rendent pas compte qu'ils font rentrer chez eux des démons. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ce sont des choses sérieuses. Et quand la Bible dit « on leur a fermé les yeux », c'est dans Ésaïe par rapport justement à l'idolatrie. Eh bien, vous lirez ce texte, notez-le. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, eh bien, prenez votre dictionnaire ce soir et dites « tiens, mais c'est quoi un augure ?» C'est quoi? Quelqu'un qui prie les morts. Il y a des gens qui prient les morts. Quand vous priez, il y a des gens qui ont prié les morts parce qu'ils étaient peinés de ce que un défunt était décédé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du spiritisme. Vous connaissez, et vous savez, c'est un crescendo. Ils sont en communion après avec les démons. Alors quand c'est dans le monde, moi je trouve que c'est normal, c'est le monde, c'est les ténèbres. Mais quand un chrétien n'a pas lu ça, moi je vous assure que ça me fait de la peine. Lisons dans... on va lire un texte, non, on va aller dans Ésaïe. On va voir la gravité. Parce que cette affaire d'aveuglement, c'est expliqué dans la Bible. Parce qu'on pourrait dire, mais c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas que les yeux physiques. Il y a les yeux du cœur. Et dans Ésaïe, alors c'est dans Ésaïe 44. Dans Ésaïe 44, il est parlé de la folie de l'idolâtrie. Moi, le chapitre 44 dans ma version parle la folie de l'idolâtrie. Alors on va le lire, c'est... Je pense qu'il faut le lire en entier, enfin en entier, une grande partie, par rapport aux idoles. Alors on va lire à partir du verset 9. Lisons-le lentement, marquez-le sur un post-it, s'il vous plaît, et ce soir, lisez-le et vous comprendrez pourquoi des chrétiens sont aveugles. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Mais c'est sûr, vous priez une idole, même si elle est en or, elle ne va pas vous parler beaucoup. Hein. C'est très intéressant de prier l'idole. Parce que ce n'est pas elle qui va vous dire « repens-toi », vous voyez. Qu'est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent. Et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, il la façonne à coups de marteau, il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim, le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé. Le charpentier, il étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine. Vous voyez combien Dieu est honnête, hein? Il y a de belles idoles. Pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres, des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, car il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, et avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti, il se rassasie, il se chauffe aussi et dit « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme !» Et avec le reste, il fait un dieu son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu !» Alors regardez bien maintenant les conséquences. C'est là où je voulais en venir, c'est pour ça que j'ai pris ce texte. Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux. Regardez bien, ce n'est pas les yeux physiques. On leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Regardez la conséquence, c'est là le vrai problème. Il ne rentre pas en lui-même. Voilà le problème. Quand on a une idole, quand quelque chose prend la place de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nos yeux spirituels sont fermés, notre cœur spirituel est fermé, on ne peut pas rentrer en soi-même. Il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « j'en ai brûlé la moitié au feu, j'ai cuit du pain avec sur des charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai » Là, on n'est plus dans l'idole, là. « Une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare. Et regardez le verdict, c'est terrible. C'est écrit, moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Il ne sauvera pas son âme. Et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main. J'ai pris ce texte parce qu'il se conclut avec une profonde conséquence. Les yeux fermés, le cœur fermé, il ne peut pas rentrer en lui-même. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, mais je suis extrêmement peiné. Mais il y a une solution, c'est que la personne, elle ne peut pas. Elle a une idole, quelque chose qui prend la place de Dieu. Et nous devons nous poser la question, est-ce que quelque chose ne prend pas la place de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important que tout le reste? Il y a des gens pour qui le sport, c'est devenu un Dieu. Est-ce que c'est bien de faire du sport? Bien sûr que c'est bien. Mais si je vais faire du sport le dimanche matin, est-ce que c'est bien? Non. Et ainsi de suite. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Pour tout. Mais lorsque on porte une idole, alors bien sûr, nous, les pentecôtistes, alors là, on n'aura pas une idole dans la maison. Nous, les pentecôtistes, vous avez vu nos murs? Pas d'idole. Hein? Nos bouquins? Pas d'idole. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut avoir une idole dans le cœur? Ben oui. Dans Ézéchiel 14, lisez avec moi. Alors, ce sujet, je peux prêcher jusqu'à demain matin, si vous voulez. La clim, elle marche. Si elle est coupée, ne faites pas comme Jonas. Ézéchiel, chapitre 14. Leurs prières n'étaient pas exaucées. Pourquoi? Pourquoi leurs prières n'étaient pas exaucées? Alors tout ça, ce n'est pas dans un but de juger. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs, c'est dans un but de réagir. On prie souvent pour qu'il y ait des convictions de péché, même dans l'Église. Est-ce qu'un chrétien peut être convaincu de péché? Mais bien sûr, ce n'est pas que les pécheurs qui ont besoin d'être convaincus de péché. Nous aussi. Et si vous êtes interpellé ce matin, bien, faites-le sérieusement. Réagissez sérieusement. Ne réagissez pas comme Caïn. Pourquoi il y a tant de rétrogrades? Eh parce que les gens, quand Dieu leur a parlé, se sont irrités. Mais moi, je le vois. Vous savez, sur 10 personnes que je reprends, il y en a peut-être 5, 6, 7 qui s'en vont. Et pourtant, c'est vrai que j'ai peut-être pas toujours le tact. Qui c'est qui arrive au lit? D'accord. J'ai peut-être pas toujours le tact. Mais quand même, quand quelque chose est vrai, je pense qu'on devrait réfléchir. Moi, le docteur, quand j'ai eu mon problème, il m'a dit certaines choses, pas beaucoup de tact, mais je l'ai fait. Parce que je savais que c'était pour ma santé. Sans tact. Doctoresse, vraiment pas pédagogue. Mais mes frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, il faut l'écouter. Que ça soit sévère ou que ça soit plein de tendresse, c'est pas important. Regardez Ézéchiel chapitre 14. Verset 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles, à où c'est qu'elles sont ? Dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Oui, il y a des choses qui nous feront tomber. Il ne faut pas rêver. Me laisserai-je consulter par... Après, on voit la solution. Dieu dit, revenez. Voyez la fin du verset 6. Revenez, détournez-vous de vos idoles. Détournez. Oui, on voit. Dieu a toujours la solution. Personne ne pourra se placer devant Dieu et dire un jour, tu ne m'as pas aidé. Ce n'est pas vrai. Est-ce que Caïn pourra un jour dire devant Dieu, oui, pourquoi tu ne m'as pas aidé davantage ? Mais non. Dieu donne toujours la solution. Et s'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu, eh bien, c'est l'occasion. Pendant que je prends le pain et le vin, qui nous parlent de pardon, est-ce que le pain et le vin nous parlent de pardon et de guérison ? Ben oui, tout le temps. Chaque fois que vous prenez le pain, chaque fois que vous prenez le vin, vous pouvez être sûr que la volonté de Dieu, c'est de pardonner et de guérir. Vous pouvez en être certain. Seigneur, c'est vrai, j'ai pas été sérieux. Obéissez à vos conducteurs. C'est écrit, obéissez à vos conducteurs. Ah, moi, il est hors de question que j'obéisse à un homme, hein. Moi, j'obéis à Dieu. Je l'entends, ça, souvent. Ouais. Mais si Dieu a placé des hommes de Dieu, c'est peut-être bien d'obéir. Parce que, si, bien sûr, si je vous dis quelque chose qui n'est pas biblique, si je vous dis, tiens, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on a quand même pas mal de catholiques qui fréquentent l'Église à nouveau, alors on va quand même, bon, on va pas tomber, écoutez bien, hein, parce que ça, je l'ai entendu. On va faire la différence entre la mariologie et la mariolatrie. Je l'ai entendu. Le fait d'aimer Marie, de la louer, mais pas de la prier. Et on a introduit ça dans certaines églises. Si je vous disais, bon, quand même, Marie, quand même. Si je vous disais, on peut prier Marie, qu'est-ce que vous diriez ? Monsieur de Dieu. Monsieur de Dieu, je pense qu'il m'arrache un œil. Mais bien sûr, si je vous dis quelque chose d'antibiblique, vous allez réagir de suite, et vous avez raison. Mais quand quelque chose est biblique, s'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu, si dans votre cœur il y a quelque chose qui est plus important, débarrassez-vous-en. Mettez-le à la deuxième place. C'est pas compliqué. Mes frères et sœurs, Dieu dit, mais je ne me laisserai pas consulter par les chrétiens qui portent des idoles dans le cœur. Et on est arrivé à ce niveau d'apostasie. Le problème, c'est que l'apostasie, elle est sur toute la terre. Sur toute la terre. C'est le signe qui précède vraiment l'enlèvement de l'Église. L'autre jour, je discutais avec une chrétienne. Une chrétienne qui me disait, Monsieur Hugo, qu'est-ce que vous pensez ? Il y a un responsable d'Église. Un prédicateur qui s'est fait tatouer après sa conversion. Eh bien, je lui ai dit, je le connais par cœur. Dans Lévitique 19, vous avez la réponse. On le lit ? Dans la version Darby, Lévitique 19, verset 28, voilà, c'est des versets qu'il faut apprendre par cœur. Les jeunes, les étudiants, vous qui témoignez, qui êtes dans des forums universitaires, apprenez ces versets par cœur. Et aujourd'hui, c'est même des pasteurs qui se font tatouer. Comment ? Bon. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Ou vous ne ferez point de tatouage, version Darby. Voilà, c'est. Alors vous allez me dire, tu vas pas pinailler maintenant pour un truc. À Tahiti, moi j'ai vu mieux. J'ai vu des gens qui se faisaient tatouer pour le plaisir de se faire tatouer. Des versets bibliques. Hein ? Mais quand la Bible dit que tu ne te feras point de tatouage. Tu ne te feras point de tatouage. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ces choses ? Alors si vous l'avez fait, mais demandez pardon. Demandez-lui vraiment pardon. Ne dites pas oui, il est légal. C'est dans l'Ancien Testament. Vous direz ça au Seigneur, vous allez voir. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on en est arrivé à l'apostasie? Parce qu'on a commencé avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. Vous voyez, pourquoi aujourd'hui presque toutes les églises, même évangéliques, non mais ça fait pitié, acceptent l'homosexualité? Vous avez vu ce que la Bible dit sur l'homosexualité? Vous l'avez lu? Ou est-ce que quelqu'un m'a dit dernièrement, monsieur Gros, vous ne devriez plus en parler, vous allez avoir des histoires. Eh bien, je préfère avoir des histoires avec les hommes qu'avec Dieu. La personne m'a dit, c'était très affectueux. Mais je vous le dis, c'est un chrétien d'ici. Peut-être il est là, que Dieu vous bénisse. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je pense que Dieu bénit toute la parole. Et il faut prêcher toute la parole. Il faut prêcher sur le paradis, mais il faut prêcher aussi sur l'enfer, etc. Et là, c'est clair. Regardez, Lévitique, parce qu'il n'y a que le choix, Lévitique 18, verset 22, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Alors, comme un homme couche avec une femme, c'est quand même dans le cadre du mariage, hein. Attention, hein. Vous lirez la suite, vous allez voir. Alors quelqu'un a dit dernièrement, ah mais ça a été écrit il y a 3000 ans, ça a plus court, comment on dit, c'est restriction. Prescription. Il faut être. Alors on va lire quand même quelque chose qui a été écrit qu'il y a 2000 ans. Regardez dans Romains, mes frères et sœurs, moi je lis ces choses, je les lis avec vous. Et je vous demande de les noter pour vous, mais également pour pouvoir témoigner. Vous vous rendez compte quand des gens responsables ne sont pas capables de dire « Ah mais je ne sais rien si on peut se tatouer ou non. Bon, tu fais ce que tu veux. » C'est ça qui se passe aujourd'hui. Quand même, si le Seigneur le demande, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que vous croyez que Dieu dit ça pour nous ennuyer? Mais Dieu il sait, il nous aime le Seigneur. Tout est fait avec amour. Tout est fait avec amour. Absolument tout. Romains chapitre 1er. C'est toujours dans ce cadre où les gens, et c'est à cause de ces choses que la colère vient. Moi j'ai entendu le Premier ministre dire que nous avancions et nous faisions des progrès par rapport à ce sujet qui nous préoccupe là. Et je peux vous dire que oui on avance, à ça on avance, mais je peux vous dire qu'on n'avance pas dans la grâce. Le pays, il va droit à la colère de Dieu. Et laissez-moi vous dire, je l'ai dit dernièrement, Dieu est en colère, pas contre vous. Si vous êtes ses enfants, croyez-moi, les regards de Dieu sont pleins de compassion. Si vous êtes un de ses enfants, Dieu dit qu'il porte ses regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu et qui craint la parole. Croyez-moi, si vous pouvez appeler Dieu Père parce que vous vous êtes repenti, si vous pouvez appeler Dieu Père éternel, croyez-moi, vous êtes à l'abri de la colère, à l'abri du jugement. Mais laissez-moi vous dire que notre nation court vers la colère de Dieu. Et regardez, c'est écrit. Romains chapitre 1er verset 26. C'est pourquoi, vous voyez, à cause de la désobéissance, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé leur usage naturel en celui qui est contre nature. Je vous dis ça, tiens, parce qu'il y a une dame qui était lesbienne. Je vous le dis, il faut que vous l'entendiez. Elle me dit, monsieur Gault, mais bien sûr, Dieu est contre les homosexuels, mais pas contre les lesbiennes. Vous voyez, quand on veut faire. Et alors, je pense quand même qu'il ne fallait pas qu'elle me le dise à moi. J'ai dit, bien, on va lire Romains. Et vous allez voir si ça s'adresse qu'aux hommes, l'homosexualité. Elle s'imaginait que parce que ce n'était pas un homme, elle pouvait se permettre d'être homosexuelle. Vous voyez, quand on est tordu, c'est tout. Romains chapitre 1er, verset 27. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et vous pouvez lire, vous lirez, mais il faut lire ces choses. Vous lirez la suite, voyez, au verset 4 du chapitre 2. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Tiens donc, la bonté de Dieu, elle ne nous pousse pas à dire, mais Dieu est bon, je fais ce que je veux. La bonté de Dieu, elle nous pousse à quoi? À se repentir. Vous voyez, ah, oh, mais Dieu est bon. Mais moi, je vous avoue que j'en ai marre d'entendre ça. Oui, Dieu est bon. Mais la bonté de Dieu, c'est, on vient de le lire, elle nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu, oh, mais c'est vrai. J'ai eu ce problème. Et bien, après tout, est-ce que dans l'église de Corinthe, il y avait eu des ex-homosexuels? Est-ce que c'est écrit? Ben oui. Et c'était des frères. Et si vous avez ce problème, eh bien, repentez-vous. Repentez-vous, ne vous traumatisez pas toute votre vie. Dieu pardonne l'homosexualité. Dieu pardonne une femme qui est lesbienne. Mais il faut se repentir. Ne dites pas Dieu est bon et puis il y a telle église qui tolère l'homosexualité. Ben allez-y, allez-y. Mais quand Jésus va revenir, vous aurez certainement compris que vous n'étiez pas dans la bonne voie. Verset 5. Mais pas ton endurcissement. Ton cœur impénitent. Un cœur impénitent, il faut expliquer tous les mots. C'est un cœur qui ne veut pas changer. Voilà, je ne veux pas changer. Il y a l'endurcissement, mais également, je ne veux pas changer. Alors, regardez le résultat. En plus, l'expression, elle est quand même costaud. Hein. Tu trempes, tu t'amasses. Vous aimez les trésors? Vous aimez les trésors?
Oui, les trésors, oui. Si vous en avez un dans un coffre, si vous ne savez pas quoi en faire.
Mais celui-là, moi, je n'en veux pas. Tu t'amasses un trésor de colère. Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Voilà ce qui vous attend, si vous êtes sérieux. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Vous avez vu ? Obéissent à l'injustice. Il faut être fort. Hein ? Tribulation et angoisse. Sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et vous lirez la suite, c'est très intéressant. Mes frères et sœurs, la gloire, l'honneur, l'immortalité pour les chrétiens qui obéissent. L'enfer, l'angoisse, le mal, la perdition pour les gens qui désobéissent. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, moi je vais souvent maintenant, je pianote là sur internet, je vais voir sur les sites chrétiens. Mais ça fait peur, mes frères et sœurs. Surtout qu'il y a des gars, c'est pas des bonhommes comme moi. C'est des gens très, très, très instruits et capables avec leur vocabulaire de vous faire avaler de ces trucs. Mais c'est impressionnant. Il y a des gens, ils sont fins. Moi, vous avez observé que je manque un peu de finesse. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens fins et qui vous font avaler, comme on dit, des vessies pour des lanternes. Laissez-moi vous le dire. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être instruit, même si la parole nous instruit. La compréhension ne dépend pas de l'intelligence. La compréhension dépend de l'ouverture du cœur. Et ça, mes frères et sœurs, c'est sérieux. Il y en a qui vont, oh, monsieur, moi, je ne suis pas intelligent, je ne comprends rien. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'ouverture du cœur. On l'a lu dans Ésaïe. On leur a fermé le cœur. Et croyez-moi que le diable, il va s'appliquer à vous fermer le cœur si vous tirez la porte. Mes frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses. Alors on va continuer pendant quelques temps. L'étranger, le racisme. Le racisme dans l'église. Mais vous plaisantez, monsieur Hugo. Les chrétiens ne sont pas racistes. Alors est-ce qu'il faut parler de ce sujet ? Est-ce qu'il y a des chrétiens racistes? Oui, il y a des chrétiens racistes. Mais il n'y a pas que les blancs qui sont racistes. Attention. Alors, on va lire un verset dans le Deutéronome. Parce que j'aimerais corriger quelque chose. Parce que souvent, il y a des blancs qui disent, oui, les blancs, ils sont racistes. Alors, on va voir quand même qu'il n'y a pas que dans ce sens. Moi, ça m'a fait sourire parce que des fois, je reprends. Ça m'arrive de reprendre des frères et sœurs de couleur. Monsieur Gau, vous m'avez repris parce que vous êtes raciste. J'ai dit, c'est pour ça qu'on a adopté Maëva. C'est exactement pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Deutéronome chapitre 10, verset 19. Alors, il faudrait tout lire, mais le temps passe. Ce sont quatre mots, ou trois. Enfin, un professeur vous dira qu'il y en a quatre. Deutéronome chapitre 10, verset 19. Vous aimerez l'étranger. Alors, il y a trois mots ou quatre? Hein? Il y en a trois ou quatre? Il y en a quatre. Le L apostrophe, c'est un mot. Ouais, ouais.
Ça, je l'ai appris. Mais enfin, bon, ça, c'est pas tellement important, je pense. Non. Mais il y a des gens qui pinaillent. Ils vont se disputer là-dessus. Je l'ai fait exprès. Je sais qu'il y a des gens qui se pinailleraient là-dessus. Alors, je vais vous dire, 3, 4, c'est... Je pense que c'est pas un gros problème. Par contre, l'étranger. Et ce n'est pas parce que vous êtes en France que vous êtes de couleur et qu'on vous a traité d'étranger que vous devez vous autoriser à haïr les Blancs. Parce que ça arrive, ça. Il y a des chrétiens blacks ou noirs qui sont racistes. La parole de Dieu... De toute façon, on est tous des étrangers, hein, aux yeux d'Israël, non? Puisque ça s'est adressé aux Juifs. Donc, en fin de compte, tous, est-ce qu'on est tous des étrangers?
Oui.
Ben oui, c'est clair. On est tous des étrangers. Mais Dieu nous teste. Hein. Moi, quand je vous dis qu'il y a des chrétiens qui disent « Ah, monsieur Gros, vous m'avez repris parce que je suis noir. » Mais j'ai dit non, je vous ai repris parce que je vous aime. C'est vrai?
J'ai dit oui.
Mais je l'ai entendu. Ici, je l'ai entendu. Alors, ça me... vous comprenez bien qu'il y a des choses plus graves. Mais c'est quand même révélateur. Un chrétien, il aime l'étranger. Et si vous êtes étranger en France, moi je sais ce que c'est d'avoir été traité de sale blanc à Tahiti. Eh bien, moi je peux vous dire que je me levais le matin, je priais pour les Tahitiens et je continue à prier. Parce que c'est ça, aimer. Et si vous êtes black, si vous êtes arabe, je ne sais rien, et que vous... Eh bien, priez pour la France. Priez. Priez pour les gens. C'est ça, aimer. On s'étonne pourquoi il n'y a pas de réveil, pourquoi l'Esprit de Dieu n'agit pas. Mais on attriste le Saint-Esprit avec tous ces trucs. Vous vous rendez compte, entre ce que je vous ai dit dimanche dernier et ce matin, c'est rien. S'il y a une dizaine de trucs. Mais ça suffit à attrister le Saint-Esprit. On doit aimer l'étranger. Moi, j'ai vu une émission dernièrement par rapport aux sans-papiers. Ça m'intéressait parce que je suis un peu dans le flou. Ils ont montré un Africain qui était venu en France. Il travaillait dans un restaurant la nuit. Il couchait sous l'escalier. Et le gars, il a été interviewé, un jeune, il avait 20 ans, sans-papiers. Et puis, c'était un super reportage. Il a été interviewé et puis le journaliste lui posait la question « Mais pourquoi vous travaillez dans ces conditions, au black, tatati, tatata ?» Et le gars, tout simple. Je suis venu travailler en France parce que j'envoie tout mon salaire, je ne sais plus dans quel pays, pour nourrir 23 personnes de ma famille. Et moi, je peux vous assurer que ça a changé certaines choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Le gars, il ne l'a pas fait pour buller, le gars, il l'a fait pour nourrir toute sa famille. Je crois que Dieu regarde à ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que Dieu a permis que je regarde ça, parce que moi, je vous assure, je suis bloqué avec ce problème. Pas de racisme, de l'immigration. J'ai un problème. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer les étrangers et de les bénir. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que c'est simple comme tout. Oh, si tu es, je le redis, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Parce que quand même, bon, c'est bien de chanter de vos cantiques. Ils étaient bien les cantiques que Jérôme a fait chanter? Ouais, c'était bien. Viens, mon âme te réclame. Et si quand je croise un arabe, je dis, ah, c'est ça l'arabe qui sont là. Ne riez pas, ne riez pas. Parce que quand moi j'entends ça, je sais très bien qu'on est en train de mettre le Seigneur Jésus-Christ à la porte. C'est tout. Vous croyez que le Seigneur s'est retrouvé à la porte de l'église de Laodicée comme ça? Non, c'est avec de la désobéissance. Je suis chrétien, mais ça m'est difficile d'aimer les Arabes. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je m'étais battu avec un Arabe. Et ça s'était mal passé. J'avais une haine. Mais j'ai compris le soir de ma conversion, j'ai compris que si je voulais rester chrétien, il valait mieux que je règle ce problème. Et je l'ai réglé. Et le Seigneur, il ne va pas nous reprocher. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à qui il donne? Aux pasteurs? Aux anciens? Aux meilleurs? Comment il dit? À qui il donne? À qui? C'est écrit, vous êtes sûr, Madame Delabre? Parce que Madame Delabre, elle me contrarie souvent. Heureusement qu'il faut aimer les Blancs. Regardez avec moi. Non mais lisez-le avec moi, mes frères et sœurs. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas de la moralisation. Attention, quelqu'un qui est tordu, je le dis franchement, il va interpréter ma prédication comme de la moralisation. Ça, c'est clair. Bon, mais ça m'est égal. Mais quelqu'un de spirituel,
il va comprendre que c'est des solutions pour devenir pieux. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. C'est ce qu'on est en train de faire. Regardez dans Jacques. Jacques, il explique, c'est par rapport à ceux qui manquent de foi, par rapport à ceux qui ne comprennent pas les épreuves. Est-ce que c'est normal de ne pas comprendre les épreuves? Vous comprenez, vous, toutes les épreuves? Non. C'est dans ce cadre-là que c'est dit. Mais, mes frères et sœurs, je vous en supplie, lisez 3 versets. Je vous ai dit 1 tout à l'heure, 2, 3, et méditez-le. Et vous verrez que dans 1 an, vous aurez fait de sérieux progrès. Jacques, chapitre 1er, c'est par rapport à l'épreuve. Donc, il faut accepter l'épreuve. Il y a des chrétiens qui découtent. Il y a des chrétiens, il y a plein de chrétiens, il y en a 8 sur 10 qui ont abandonné Dieu à cause des épreuves. Alors que Dieu dit ceci, Jacques, chapitre 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, alors est-ce que ça peut arriver de manquer de sagesse? De quoi on peut manquer? D'amour, tiens. Mais je suis raciste. Est-ce que quelqu'un pourrait ce matin, est-ce qu'on va le juger? Si quelqu'un se levait dans l'église, écoutez monsieur, vous priez pour moi, je suis raciste. Est-ce que Dieu va le juger? Non, Dieu va le... Donne-moi d'aimer. Est-ce que Dieu peut remplir votre cœur de son amour? Vous avez vu comment Paul, il s'appelait comment Paul avant sa conversion? Saul. Vous avez vu comment c'était? Il dit lui-même, Paul, blasphémateur. Et quand le Saint-Esprit nous parle de lui, c'est en des termes très élogieux, Saul de Tarse, respirant le meurtre, il respirait le meurtre et la menace. Voilà comment le Saint-Esprit nous décrit le caractère béni du Saul de Tarse. Blasphémateur, respirant le meurtre et la menace. Quand vous parliez avec lui, ça sentait pas bon. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, ça sent la haine. Bon. Et cet homme, est-ce qu'il était après rempli de l'amour? Il est même dit qu'il disait l'amour de Christ me presse. Si quelqu'un, je manque d'amour, eh bien je demande de l'amour. Je manque de sagesse, eh bien je demande de la sagesse. Je manque d'intelligence, je manque de, je sais pas moi, de tendresse, je manque, je sais pas, demandez à votre épouse, à votre mari. Soyez honnête. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande aux frères. Qui m'a repris? Qu'il la demande à Dieu. Les gens, ils sont tout le temps en train de se plaindre auprès des autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'il la demande à Dieu, qui donne au meilleur. C'est pas ça que vous avez dans la Bible? Il donne, mais quand même, mes frères et sœurs, il donne à tous. Vous entendez? Il donne à tous. Attendez, regardez comment en plus. Simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi sans douter. Mes frères et sœurs, je ne sais pas de quoi nous manquons. Moi, vous voyez, je manque de certaines choses, mais que je les demande. Je manque de patience. Mais Seigneur, accorde-moi cette grâce d'accepter cette situation que je suis en train de vivre là, dans mon boulot, tous les matins sur la rocade, je m'énerve. Mais partez plus tôt, ou alors demandez la patience. Mais réglez cette affaire. Vous n'allez pas passer 20 ans à râler sur la rocade et à pourrir la vie de tous les gens avec qui vous travaillez parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes en retard. Même il y a des chrétiens, ils pourrissent la vie de tout le monde. Et ce sont les premiers à vous dire, il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais moi, ça me fait pas rire. Je suis désolé. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui donne à tous et sans reproche. Il n'est pas bon, notre Seigneur? Il pourrait nous dire ce matin, mais écoute, ça fait 50 fois. Eh bien, tu peux demander la 51e fois, pardon. Mes frères et sœurs, vous savez, moi, je vous le dis parce que, bon, ça, c'est mon expérience. Moi, je bénis Dieu pour la croix. Je bénis Dieu pour la Sainte-Seine, vraiment. Je bénis Dieu pour ce que Jésus a... Parce que n'oubliez pas que Jésus, c'est Dieu, dépouillé de sa gloire. C'est pas n'importe qui est venu, il n'a pas envoyé Gabriel ou des gens de grande renommée dans l'église. L'ange Gabriel, c'est quelqu'un. Il est venu, lui. Et je bénis Dieu pour son amour au calvaire. Mais franchement, moi, quand je lis la Bible, je me dis, si on n'avait pas la Bible, dans quel pétrin on serait? Même si on avait toute la signification de la croix. Vous voyez ces choses qu'on a partagées, c'est le béaba. Dimanche dernier, c'était pareil. Enfin, c'est pareil, c'était d'autres sujets. J'ai été estomaqué de la quantité de chrétiens qui m'ont dit merci, monsieur Gau, pour la prédication. Merci. Ça frise l'évangélisation. C'est de l'évangélisation ou de l'édification? Les deux. Mes frères et sœurs, on va passer devant Dieu bientôt. Moi, je crois que bientôt Jésus va revenir. J'en suis convaincu. Tout est fait. Cette semaine, je termine avec ce témoignage pour vous dire combien ça va vite. Il y a un frère qui me téléphonait pour me dire qu'en Italie, ils ont surpris... Écoutez bien, c'est grave ce que je vais vous dire. Ils ont surpris un homme de 62 ans couché avec une fille de 11 ans. Bien sûr, ça fait un procès. Au procès, la jeune fille, enfin l'enfant, a dit qu'elle était d'accord, consentante. Donc ils sont en train de préparer une loi au gouvernement italien pour tolérer les relations sexuelles avec des mineurs. Ça veut dire qu'on tolère la pédophilie. Voilà, ça va être voté et on paye des députés pour ça. Non mais c'est grave. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de chrétiens même qui diraient ça. Ils trouveraient ça, bon. Mes frères et sœurs, ça vous donne, toutes les semaines, il y a un truc qui est passé, qui est voté, et qui vous montre que la colère arrive. Heureux, heureux ceux qui sont sous le sang du Seigneur. Heureux ceux qui prennent la guérison et le pardon à la Sainte-Seine. Parce que c'est ça la Sainte-Seine. C'est pour ça que je veux prendre la Sainte-Seine après la prédication. Même si j'ai prêché longtemps ce matin, tant pis. Mais mes frères et sœurs, obéissons à Dieu. Il revient chercher ceux qui obéissent. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Alors fermons les yeux. Jérôme, vous pouvez choisir des frères, s'il vous plaît. Que ce moment soit un moment de guérison. Alléluia. Il donne sans reproche. Vous entendez, mes frères et sœurs? Il est assis sur le trône de la grâce. Vous ne le voyez pas. Mais moi, je vous le dis. C'est écrit dans la Bible. Jésus est assis pour le moment. Encore pour très peu de temps, sur le trône de la grâce, et ce matin je peux vous dire qu'il veut donner pardon et guérison et bénédiction. La Sainte-Seine, ça doit être un sujet de victoire. Je ne sais pas où vous en êtes, peut-être que vous ne le savez même pas. Est-ce que moi je sais où j'en suis exactement dans ma vie spirituelle? Je ne suis pas sûr, franchement je ne suis pas sûr. Mais Dieu le sait. Et si je mets en pratique la parole... Je serai heureux, malgré la peine de voir des gens perdus dans ma famille, malgré le chagrin de voir des gens s'éloigner de Dieu. C'est clair, il y a cette peine et ce chagrin. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir. Mais dans le plus profond de votre cœur, il peut y avoir une assurance, un bonheur de marcher avec Jésus. Et je demande à ceux qui sont baptisés par immersion de se lever à leur place. Mais rappelez-vous, demande à Dieu, sans reproche, il va te le donner. Il va te le donner. Tu as besoin de pardon, prends le pardon ce matin. C'est ça le pain de vin. Tu as besoin de guérison. Seigneur, guéris-moi, j'en ai marre d'être raciste, j'ai un blocage. Eh bien, il va vous guérir. C'est ça la Sainte-Seine. C'est le pardon et la guérison.